Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Révolution féministe. Rencontre avec Aurore Cochlin autour de son livre La Révolution féministe, paru aux éditions Amsterdam. Une rencontre ayant eu lieu à Terra Nova le mercredi 30 octobre 2019.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Nous sommes heureuses d'accueillir ce soir Aurore Cochlin, militante et doctorante qui fait une thèse sur la gynécologie médicale et qui est là ce soir pour nous parler de son livre La Révolution féministe qui vient de paraître chez Amsterdam. Donc comme d'habitude, il y aura un temps de présentation du livre. Ce sera ouvert à un échange avec le public. Je vous remercie. Bonne présentation.
Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, merci à la librairie Terra Nova pour l'invitation. Merci à vous d'être là ce soir. Donc là, j'ai un petit temps de présentation qui est assez long. J'ai essayé de synthétiser en gros le livre que j'ai écrit. C'est la première fois que je le fais sous cette forme, donc on va voir si ça fonctionne. Mais déjà, peut-être en introduction, je voulais revenir sur le contexte qui m'a poussée à l'écrire. Et la première chose à souligner, peut-être, c'est que ce livre, il est surtout le fruit d'une expérience militante dans le cadre de deux collectifs féministes. Un premier collectif féministe qui s'est formé au début des années 2010 et un deuxième qui existe encore et qui s'est formé suite à la mobilisation contre la loi travail de 2016 et qui s'appelle le collectif féministe révolutionnaire. Et en fait, cet ouvrage, c'est vraiment le fruit d'une réflexion collective et d'expérimentation politique féministe collective. C'est important à mon avis de le rappeler, il ne sort pas de rien et même si c'est mon nom qui est sur le livre, je dois énormément en fait à l'intelligence collective, aux expérimentations collectives. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point qui m'a poussée à l'écrire, c'est que quand j'ai commencé à militer féministement au début des années 2010, et je pense que pas mal de personnes ont pu ressentir ça de cette génération du féminisme, c'était difficile en fait de se réapproprier l'héritage féministe. C'était difficile d'avoir accès à l'histoire de la première, de la deuxième, de la troisième vague du féminisme. C'était difficile de fixer les différentes théories. Et même si on a une production théorique française très riche, finalement, quand on n'est pas spécialiste en fait universitaire des questions de genre, c'est quelque chose qui demeure pour beaucoup insaisissable, notamment malheureusement parce qu'une partie de cet héritage des luttes féministes est invisibilisée volontairement ou involontairement. Et du coup, c'est par le biais d'expériences politiques collectives que progressivement, personnellement, j'ai réussi à replacer les cases dans le bon ordre. Et du coup, j'avais cette volonté un peu de proposer une synthèse qui soit le fruit de moi, mes réflexions, et qui soit évidemment un premier pas, un premier cap pour continuer à mener ces réflexions ensemble et se réapproprier cette histoire qui est trop souvent, à mon avis, oublié, effacé, etc. Bon, et le la troisième raison et le troisième élément de contexte qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est peut-être le plus évident, c'est le contexte national et international de développement d'une mobilisation féministe d'ampleur depuis le début des années 2010, que moi j'appelle une quatrième vague du féminisme et qui prend notamment des formes particulièrement fortes en Amérique latine, notamment en Argentine, avec la lutte contre les féminicides, la lutte pour la réappropriation de son corps, la lutte aussi pour l'enseignement du genre à l'école. Enfin bref, on assiste au développement d'une formidable mobilisation en Amérique latine et aussi quelque part en Europe, hein, dans l'État espagnol. On a vu qu'aux deux derniers 8 mars, il y avait des millions de personnes qui étaient descendues dans la rue. En fait, c'est impressionnant. En Italie aussi, il y a une lutte contre les féminicides qui s'est enracinée depuis plusieurs années déjà. Bref, il se passe quelque chose de fort à l'échelle internationale. Et du coup, dans ce contexte, il me semblait important de reposer un peu les bilans qu'on pouvait tirer à la fois historique, théorique et stratégique des 50 dernières années du mouvement féministe en France. Bon, alors dit comme ça a l'air très présomptueux, en fait c'est juste des premières pierres que je pose. Je prétends pas faire le tour de la question, mais il me semblait important de commencer à poser la question vu le contexte et vu le fait qu'on constate qu'en France aussi les choses sont en train de bouger avec le contexte de l'arrivée de MeToo, d'AG qui se développe, de lutte contre les violences sexistes aussi qui prennent une dimension plus importante. Alors on n'en est pas encore au stade, on va dire, de l'Amérique latine ou même de l'État espagnol ou de l'Italie, mais on peut penser que ça devrait arriver logiquement puisque c'est en train de se développer un peu partout dans le monde et que du coup ben, il faut s'y préparer, et c'était aussi l'idée de ce livre. Alors voilà pour l'introduction, un peu de contexte général. Du coup, dans cette présentation, maintenant, je voulais revenir rapidement sur les trois éléments de bilan que j'ai essayé de dresser avec ce livre. Donc comme je disais, un premier bilan, on va dire, historique, un deuxième bilan plus théorique, et ça nous mène au troisième bilan, qui est un bilan stratégique. Donc j'essaierai d'évoquer ces trois points assez synthétiquement. Du coup, dans un premier temps, le bilan historique que je dresse en toute première partie de l'ouvrage, pour préciser, donc je ne suis pas historienne, c'est ce que je disais, c'est le fruit d'une recherche collective, mais il me semblait très important de repartir de l'histoire et des événements concrets qui se sont déroulés, notamment parce qu'on a quand même énormément de tendance, j'ai l'impression, dans le milieu féministe, à relire le passé à la lunette de nos positionnements politiques du présent, ce qui me semble pas une bonne façon de fonctionner. Et du coup, dans le livre, je repars de la deuxième vague du féminisme, c'est-à-dire des années 60-70, et de la lutte en particulier pour la légalisation de la contraception et de l'avortement. Et j'essaye d'en tirer un peu quels ont été ces apports qui marquent encore le mouvement féministe aujourd'hui, et quelles ont été peut-être aussi ses apories, ses limites. Donc dans les principaux apports de cette deuxième vague, ben, c'est d'ailleurs pour ça que je commence par la deuxième vague et pas par la première vague, c'est la naissance en fait vraiment d'un mouvement féministe autonome, au sens où il s'organise en grande partie en non-mixité, et autonome parce que il est séparé des autres organisations existantes, notamment du mouvement ouvrier. Donc c'est vraiment pour moi le moment un peu de fondation du féminisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on est face à un mouvement dans les années 70 qui prend là aussi des proportions qui sont très fortes, avec des centaines de milliers de personnes qui se mobilisent dans le mouvement. Et on est face à un mouvement qui à la fois remet en cause radicalement le système de domination de genre dans tous ses aspects, en s'en prenant au patriarcat et à toutes ses manifestations, et qui dans le même temps parvient à se cristalliser aussi autour de revendications qui font se mobiliser les gens, qui font descendre les gens dans la rue, donc qui arrivent à la fois à avoir on va dire, des revendications immédiates et en même temps une remise en cause profonde de l'ensemble de la domination et de l'ensemble de la société. Donc ça me semble une démarche intéressante et à laquelle on peut réfléchir pour aujourd'hui. Et enfin, troisième, on va dire, apport et en même temps caractéristique, c'est que dès cette époque, finalement, et ça peut-être on a tendance à le minimiser, mais dès cette époque apparaissent différents féminismes au sens où, dès les années 70, il y a différents courants du féminisme qui existent, qui ont différentes interprétations de la domination de genre, différentes théorisations, mais aussi différentes propositions politiques, différentes stratégies qui se mettent en place. Donc un des courants qui est bien connu, on va dire, c'est le féminisme matérialiste autour de la figure de Christine Delphi, un des courants du MLF. Un autre courant, c'est psychanalyse et politique. Là aussi, c'est un courant du MLF autour de la figure d'Antoinette Fouque. Et ce que j'ai essayé de mettre en avant dans mon livre, c'est un troisième courant qui est peut-être plus méconnu, en tout cas que moi j'ignorais pendant de nombreuses années, dont la sociologue Josette Tratt dit que c'est un courant qui a été en partie oublié du féminisme. C'est le féminisme lutte de classe qui essaye de croiser finalement la lutte anticapitaliste avec la lutte féministe et qui a notamment réalisé, selon Bibia Pavard, une historienne, un large front d'organisations à la fois d'extrême gauche et féministe. C'est le MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception. Et le MLAC est notamment connu pour avoir réalisé de façon... peut-être pas massive, mais presque, des avortements illégaux via la méthode Carman. Donc c'est une figure importante finalement de cette deuxième vague, le MLAC, et on le perçoit pas souvent comme une des réalisations positives finalement du courant féministe lutte de classe. Donc ça, c'est un peu les principaux pour moi apports de cette deuxième vague. Après, je souligne aussi qu'il y a une limite qui à mon avis est importante et qui est présente dès ce moment-là, c'est que cette deuxième vague, elle a surtout été un mouvement et elle a peu pensé la stratégie hors mouvement. Ça, c'est une hypothèse que je fais d'après ce que j'ai pu lire, étudier, etc. C'est aussi quelque chose que je soumets aux personnes qui ont vécu cette période et pour avoir des retours. Mais j'ai l'impression que finalement, la faiblesse de ce mouvement, c'est de s'être pensé un peu éternel et que lorsque la deuxième vague retombe, il n'y a pas forcément d'organisations qui survivent à la fin de la mobilisation. Par exemple, le MLAC s'éteint progressivement, le MLF, bon, il y a plein de problèmes à la fin des années 70, je ne vais pas revenir là-dessus. Et finalement, les organisations ne perdurent pas et en plus, on assiste à l'arrivée de la gauche, enfin en tout cas du PS au pouvoir, et du coup, au développement beaucoup plus fort du féminisme d'État avec la recréation du ministère pour le droit des femmes. Et finalement, tout cela aurait, à mon avis, pu être plus anticipé avec davantage d'élaboration stratégique sur comment faire une fois que finalement la mobilisation elle redescend et comment s'organiser dans un contexte différent. Donc ça, c'est un peu le bilan que je fais de la deuxième vague. Après, j'évoque aussi la question de la troisième vague. Je vérifie le temps, hein, que je suis à peu près dans les temps. Donc la troisième vague, elle se développe, elle, dans les années 90. Différemment aux États-Unis et en France, mais dans cette présentation je parlerai que de la France parce que sinon ce serait trop compliqué. Et finalement elle est caractérisée surtout, et c'est son principal apport à mon sens, par une reconceptualisation du sujet du féminisme et par une volonté de placer au centre le croisement des différentes dominations sociales, c'est-à-dire de croiser à la fois genre, classe, race, c'est le triptyque qu'on cite souvent, mais aussi toutes les autres formes de domination sociale et d'essayer de les penser ensemble et de voir comment penser l'articulation, comment le fait qu'elle s'articule fait qu'elle se reconceptualise aussi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, mais tout ça, ça se développe des années 90 et c'est la marque de la troisième vague. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent, et d'ailleurs il y a un débat au sein du féminisme pour savoir si la troisième vague a vraiment existé. Il y a des féministes qui disent en fait c'est juste qu'il y a eu un renouveau théorique universitaire, mais il n'y a pas eu de vraie mobilisation. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en France à la même période, dans les années 90, donc, on assiste à une renaissance du mouvement féministe, un dynamisme du mouvement féministe, et notamment quelque chose, en tout cas moi, que je connaissais mal, c'est que la vague de grève qui éclate en 1995 contre la réforme des retraites, elle part, évidemment, elle part pas que de là, mais sa première manifestation, c'est en fait lors du 25 novembre 1995, journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes, et où il y a 40 000 personnes qui descendent dans la rue, ce qui est un chiffre très important. Et c'est le début, en fait, du grand mouvement de grève de 1995. Et dans cette dynamique, il y aura tout un tas de rencontres féministes dans les années qui suivront. Il y aura la création notamment du CNDF l'année d'après, le Collectif National pour les Droits des Femmes. Bref, les années 90 en France, elles sont marquées par un renouveau des luttes. Et du coup, moi, je trouve que ça fait plutôt sens dans... Enfin, ça va plutôt dans le sens qu'il y a bien eu une troisième vague. En tout cas, moi, c'est cette lecture que je défends. Mais peut-être que la différence quand même importante avec la deuxième vague, c'est que même s'il y a une reprise des luttes féministes, elle ne prend pas les formes aussi fortes qu'avait prise la deuxième vague. On n'a pas des centaines de milliers de gens qui descendent dans la rue. On n'a pas l'éclosion d'un mouvement qui se cristallise autour d'une revendication qui porte le mouvement vers la mobilisation importante. Et du coup, en conclusion pour ce retour historique, pourquoi je développe tout ça ? Eh bien, parce que ça nous aide aussi à comprendre la quatrième vague. Et moi, je dis souvent pour synthétiser un peu sous forme de blague, parce que c'est évidemment une relecture un peu rapide, mais que finalement, on peut considérer que la quatrième vague qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est une forme de synthèse des deux vagues qui l'ont précédée, comme si finalement, cette quatrième vague, elle reprenait le meilleur de chacune des deux vagues qui l'ont précédée. Donc le meilleur de la deuxième vague, c'est qu'on a la volonté d'un mouvement qui soit massif, qui se cristallise autour de revendications concrètes. La fin des féminicides, le droit à l'avortement, etc. etc. Et qui aussi fait un effort de conceptualisation des bases de l'oppression des femmes et qui pense notamment la question du travail en lien avec l'oppression des femmes. Je reviendrai là-dessus en deuxième partie. Et qui met en son centre aussi la question de la grève. Là aussi, je reviendrai là-dessus. Des choses qui étaient un peu présentes dans la deuxième vague, mais aussi effacées en raison d'une certaine rupture entre mouvement féministe et mouvement ouvrier. Mais cette quatrième vague, elle reprend aussi à la troisième vague des éléments qui me semblent très importants, notamment la question de l'inclusivité du mouvement féministe et la nécessaire pensée du croisement des oppressions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le genre sans la classe et sans la race, pour le dire vite, et sans les oppressions en général. Et du coup, on a cette quatrième vague qui reprend des éléments de ce qui l'a précédée. Après, elle a des éléments qui bien sûr sont différents, et je dis ça un peu sous forme de boutade, mais je trouve que ça aide à comprendre, de conceptualiser comme ça. Donc ça, c'était un peu mon retour sur mes deux premiers chapitres, retour historique et un peu la question de la quatrième vague. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais revenir sur la question plus théorique et la question de bilan théorique. D'abord, deux petits points. Finalement, souvent, dans le champ féministe, il y a une vision assez oppositionnelle des différentes théories. Et dans mon livre, j'ai essayé de prendre les choses un peu différemment et de rendre hommage à tout ce que chaque théorie féministe avait pu m'apporter, moi, dans ma formation féministe, y compris des théories avec lesquelles je suis pas forcément d'accord jusqu'au bout. Donc j'ai essayé de rendre un peu compte des principales théories féministes, notamment dans le passage du retour historique. Et dans le même temps, ça me semble semblait important, c'était un peu le deuxième point, aussi pour essayer de fixer, c'est ce que je disais en introduction, les différentes théories, les différents termes utilisés, parce que finalement, parfois on utilise beaucoup de choses les unes pour les autres, donc quelle est la différence entre féminisme matérialiste, est-ce qu'on peut parler de féminisme postmoderne, qu'est-ce que la théorie queer, l'intersectionnalité, etc. Tout ça, je l'évoque en fait pour que tout le monde se mette d'accord sur les termes employés. Et enfin, je fais pas qu'un bilan, on va dire, théorique, même si c'est en partie un bilan, mais j'essaye de mettre en avant une théorie qui est peut-être moins connue dans le cadre francophone, qui est la théorie de la reproduction sociale, qui est moins connue parce que c'est en fait le fruit de 50 ans de débats dans le milieu féministe, mais plutôt anglo-saxon. Et la plupart des auteurs, des autrices qui ont participé à cette théorie de la reproduction sociale, en fait, malheureusement, ne sont pas encore traduites en français. Une autrice qui a contribué à visibiliser dans l'espace français, francophone, la théorie de la reproduction sociale, c'est Silvia Federici, qui a été notamment traduite ces derniers temps, et qui a permis justement qu'on commence à se réapproprier cette théorie. Mais une autre autrice qui est importante, qui est notamment une des grandes théoriciennes de la théorie de la reproduction sociale, c'est Lise Vogel, que je cite aussi, je me base beaucoup et sur Federici et sur Lise Vogel, et elle par contre, elle n'est pas encore traduite en français, donc forcément ça rend plus difficile l'accès à cette théorie, et j'ai essayé de proposer une synthèse de qu'est-ce que la théorie de la reproduction sociale. Et en fait, donc je vais essayer de vous le présenter rapidement, c'est une théorie qui essaye de penser l'oppression des femmes en repartant du cadre d'analyse marxiste, à la fois en repartant des concepts marxistes et à la fois en soulignant les limites de la pensée de Marx sur la question de l'oppression des femmes. Donc il ne s'agit pas d'être dans un rapport de sacralisation de Marx, mais bien de dialogue ouvert et d'amendement finalement de là où Marx n'est pas allé jusqu'au bout de la théorisation. Et finalement, la théorie de la reproduction sociale repart des débats qui ont animé les années 70, de savoir quelle est la base matérielle de l'oppression des femmes. Qu'est-ce qui explique matériellement qu'il existe une oppression des femmes, qu'est-ce qui explique l'existence de cette oppression. Et en France, les théoriciennes matérialistes, comme Christine Delphi, ont surtout mis en avant l'assignation des femmes au travail domestique, donc le travail qui a lieu au sein de la famille, qui est effectué par les femmes, qui est invisibilisé comme travail, mais connu comme travail, présenté comme une aspiration naturelle, et effectué gratuitement. Donc c'est tout ce qui est évidemment éducation des enfants, soins de la maison, préparation des repas, ménage, etc., etc. La théorie de la reproduction sociale repart de là, de cette idée d'un travail des femmes. Mais elle va, en quelque sorte, élargir la focale, en repartant aussi du cadre d'analyse de Marx. Donc Marx s'intéresse aux bases matérielles de l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, qu'il théorise dans l'appropriation par les capitalistes de la survaleur. Mais finalement, Marx s'intéresse surtout à ce qui se passe au sein de l'usine, dans la production des marchandises, pour le dire très rapidement. Et Titi Bhattacharya, qui est une théoricienne de la reproduction sociale, pour faire comprendre voilà, d'où vient l'idée de la reproduction sociale, elle dit « Si les travailleurs et les travailleuses produisent les marchandises, donc imaginons dans le cadre de l'usine, qui produit les travailleurs et les travailleuses ?» Donc il s'agit de retourner en arrière, en amont du processus, de sortir le regard en quelque sorte de l'usine, avant même la question de la production des marchandises. Qu'est-ce qui permet que le matin, au réveil, il y ait ces travailleurs et ces travailleuses fraîches et disposes pour aller être exploités dans le cadre de l'usine? Qu'est-ce qui permet ça? Eh bien, c'est précisément les femmes et le travail reproductif. Le travail reproductif qui donc produit et reproduit ces travailleurs et ces travailleuses. En termes marxistes, le travail qui produit et reproduit la force de travail qui elle-même va produire les marchandises. Et ce qui est important, c'est de voir que ce travail reproductif, il s'effectue toujours à un double niveau finalement, celui du renouvellement générationnel des travailleurs et celui du renouvellement quotidien des travailleurs et des travailleuses. Donc il y a toujours un double niveau finalement, le niveau intergénérationnel par la procréation et par l'éducation des enfants, et le niveau quotidien par la reproduction quotidienne des travailleurs et des travailleuses, par la reproduction quotidienne de la force de travail, ce qui avait été théorisé par les féministes matérialistes comme le travail domestique. En fait, on retrouve là notre travail domestique. Et ce qui est important de voir, c'est que ce travail reproductif, il est central au système capitaliste, parce que c'est celui qui permet précisément que nos travailleurs et nos travailleuses soient disponibles pour aller travailler. Donc indirectement, c'est le travail qui permet le profit des capitalistes, puisque c'est le travail qui indirectement produit celles et ceux qui permettent le profit. Donc finalement, on en arrive à une vision qui est une vision unitaire des dominations et de l'exploitation, qui montre qu'il y a une sorte d'imbrication fondamentale entre production et reproduction. On ne peut pas penser la production sans penser la reproduction. On ne peut pas penser la production des marchandises sans penser la reproduction de la force de travail. Les deux vont de pair, et du coup, le capitalisme comme le patriarcat, compris comme la domination des femmes, fonctionnent ensemble et sont aussi déterminants l'un l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus central que l'autre. Finalement, ils fonctionnent ensemble. Et cette théorisation via le travail reproductif nous permet de penser un système unitaire. Pour finir sur la question théorique, un dernier point qui me semble important, là c'est Lise Vogel dont je vous parlais qui le souligne, c'est qu'il existe une contradiction centrale au capitalisme entre la nécessité de produire la survaleur, les marchandises, la valeur, la survaleur, et la nécessité de produire et reproduire la force de travail. Sur du court et sur du long terme, puisque le travail reproductif, il est en partie pris sur du travail salarié, notamment dans le cadre domestique. Or, le travail salarié, dans le cadre marxiste, c'est le seul à produire la survaleur. Mais dans le même temps, le travail reproductif, comme je l'ai dit, il est central au système capitaliste, il est central pour garantir l'existence d'un travail salarié. Donc on est face à une forme de contradiction qui va faire que dans une vision un peu schématisée et peut-être trop fonctionnaliste, mais bon, c'est comme ça que je le présente, le capitalisme va tendre finalement à diminuer au maximum le coût du travail reproductif, à faire en sorte qu'il coûte le moins cher, qu'il soit le moins cher possible. Et historiquement, on constate qu'il y a trois grandes solutions mises en place pour diminuer le coût de ce travail reproductif. La première solution, c'est celle qu'on a déjà bien évoquée, c'est de recourir au travail gratuit des femmes dans le cadre de la famille. Donc là, ce travail est gratuit, les femmes le réalisent gratuitement, soit exclusivement, soit en plus de leur travail salarié, c'est la fameuse double journée de travail. Et dans ce cadre-là, le travail reproductif est en fait rémunéré indirectement via les salaires du travail salarié. Donc première technique, première solution pour économiser au maximum sur ce travail reproductif. Deuxième solution, c'est de recourir à l'État et finalement de mutualiser ce travail reproductif. On va l'externaliser de la sphère familiale et on va le mettre en commun, notamment via le développement des services publics qui se sont beaucoup développés, en particulier dans le cadre des Trente Glorieuses et de l'État-providence. Et donc vous avez tout un tas de secteurs qui se développent et qui prennent en charge ce travail reproductif dans le cadre de l'éducation, de la santé par exemple. Troisième solution, troisième technique, c'est dans un cadre national donné, le fait d'avoir recours à une force de travail, à des travailleurs extérieurs dont on n'a pas eu à assurer la production et la reproduction avant leur arrivée dans le cadre national. C'est le recours à l'immigration qui permet effectivement là aussi d'économiser toute une partie des coûts du travail reproductif, puisqu'on peut faire venir directement les travailleurs une fois qu'ils sont en âge de travailler. Si bien que, en fait, le gain de réflexion qu'on a avec la notion de travail reproductif, à mon sens, outre le fait de vraiment lier directement production et reproduction et donc de penser à un système unitaire, c'est aussi qu'on voit que le travail reproductif, même s'il s'effectue centralement encore aujourd'hui dans le cadre de la famille, il a d'autres espaces. Notamment les services publics, dans tout ce qui est travail de reproduction comme l'éducation et la santé. Et c'est des secteurs qui sont extrêmement féminisés, ce qui explique aussi leur féminisation. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres espaces, et notamment qu'une évolution récente et importante du travail reproductif, c'est qu'il tend de plus en plus à entrer dans la sphère salariée. C'est qu'il sort de la sphère familiale pour être mis sur le marché, pour devenir lui-même un travail salarié, notamment dans les services à la personne, dans le développement des services à la personne. Et dans ce cadre-là, on peut voir une forme de résolution finalement de la contradiction que je disais entre nécessité de produire et reproduire la force de travail et nécessité de produire la sur-valeur, puisque là, notre travail reproductif, il devient directement du travail salarié. Mais dans le même temps, il change en partie d'aspect et on constate que lorsque il entre dans la sphère salariée, non seulement il est genré, mais aussi il est en grande partie racialisé. C'est-à-dire que c'est énormément de travailleurs et de travailleuses qui sont racisés qui vont le prendre en charge. Donc voilà, c'est intéressant de repartir un peu aussi des évolutions du travail reproductif. Donc pourquoi est-ce que je développe autant là-dessus et pourquoi est-ce que ça a une place si importante dans mon livre? C'est parce que cette théorie, elle me semble être la plus à même à répondre finalement aux aspirations de la quatrième vague qui est en train de naître, parce que elle part à la fois des théories qui l'ont précédée. Je trouve qu'elle prend bien appui sur les gains théoriques à la fois du travail domestique et à la fois de la question de l'intersectionnalité. Et dans le même temps, elle met en son centre la question du travail et du coup la question de la grève. Et j'ai dit que c'était des questions qui étaient centrales dans la quatrième vague aujourd'hui. Donc j'en viens pour finir à ma troisième partie et au bilan stratégique que je fais dans le quatrième chapitre de mon livre. Alors c'est peut-être la partie qui est la plus, on va dire, à la fois personnelle et politique, au sens où je pense que les trois premières parties peuvent plus être lues comme des synthèses finalement, alors que la quatrième partie c'est vraiment plus une prise de position. Et en fait, c'était une partie qui me semblait très importante parce que souvent on expose les théories déconnectées des questions stratégiques et finalement, ce qui me semble important de toujours souligner, c'est que toute théorie féministe implique une prise de position stratégique, même lorsqu'elle est tue ou même lorsqu'elle est invisibilisée. Du coup, là, il y avait la volonté de poser directement, d'affronter finalement directement cette question stratégique. Et l'autre aspect, c'est que si pour moi il existe bien différents féminismes, c'est qu'en grande partie il existe différentes stratégies féministes qui vont dans un deuxième temps définir différents féminismes. Bien sûr, les différences de théorie, elles existent et elles expliquent qu'il y ait différents féminismes, mais ça ne s'arrête pas à des différences de théorie, parce qu'on a l'impression que c'est juste une différence d'analyse. Souvent, ça va au-delà et c'est aussi des différences de parti pris politique. Donc, dans mon ouvrage, j'essaye de définir trois stratégies. Peut-être on pourrait les définir autrement, mais voilà, c'est comme ça que je prends les choses dans mon ouvrage. La première stratégie que j'évoque, c'est la stratégie féministe réformiste, je la qualifie comme ça, en reprenant finalement la partition classique réforme vs révolution. Et l'idée dans cette stratégie, comme son nom l'indique, c'est finalement d'obtenir, on va dire, la fin de l'oppression, ou en tout cas l'égalité, via un changement progressif de la société, via un ensemble de gains et de réformes, et en investissant notamment l'outil de l'État comme l'outil principal pour arriver à ce changement de société. Dans le cadre de cette stratégie, je distingue trois types d'actrices différentes et ça me semble assez important parce que souvent on tend à les amalgamer et moi je pense que c'est quand même très différent et qu'il faut les distinguer. Donc très rapidement, premières actrices, c'est celles que j'ai appelées les féministes institutionnelles, qui ont une reconnaissance institutionnelle, qui sont en dialogue avec l'État, mais qui ne font pas directement partie de l'État et qui entretiennent en fait une organisation, une existence organisationnelle autonome. Mais le plus souvent, elles sont néanmoins dépendantes des financements de l'État pour exister. Et d'ailleurs, souvent, elles prennent en charge une partie du travail qui pourrait ou devrait, alors ça dépend des points de vue et peut-être des secteurs, être assuré par l'État. Et c'est le cas de pas mal d'associations féministes qui, par ailleurs, peuvent faire un travail de terrain absolument remarquable. Voilà, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, pour moi, quand je dis féministe institutionnelle, c'est plus pour dire qu'elles ont une reconnaissance institutionnelle et qu'elles sont en dialogue avec l'État. Donc, premier type d'actrice. Deuxième type d'actrice, les féministes d'État. Donc, c'est pas la même chose que les féministes institutionnelles, qui, elles, développent une politique d'amélioration du statut des femmes et des minorités de genre, directement au sein même de l'État et de ses administrations, de ses institutions et de son gouvernement. Donc elles, la différence avec les féministes institutionnelles, c'est qu'elles sont directement intégrées à l'État et que leurs intérêts sont en quelque sorte liés. Si on veut citer des féministes d'État, on peut citer les ministres chargés des droits des femmes, comme Yvette Roudy sous Mitterrand ou aujourd'hui Marlène Schiappa, mais au-delà de leur figure individuelle, bien sûr, il y a toute une administration derrière elles. Donc c'est un ensemble plus vaste que ces figures-là. Et enfin, les troisième types d'actrices que j'ai définies au sein du féminisme réformiste, alors là, c'est moins, on va dire, en fonction de leur position objective, c'est plus une prise de position qui les définit. En fait, je reprends la terminologie de Sarah Faris, une sociologue, qui parle de fémonationalistes. Et là, c'est plus des féministes qui vont défendre une certaine politique au nom du féminisme et une politique que moi je qualifie, et peut-être là on en vient plus au débat interne au mouvement féministe, on verra au moment de la discussion, mais de raciste, islamophobe ou impérialiste. Qui font une forme de convergence avec deux autres acteurs, selon Sarah Faris, les politiques néolibérales et une partie des nationalistes, en créant finalement une figure repoussoire de l'islam, nous dit Sarah Faris, du monde musulman et plus globalement des hommes racisés comme étant par nature sexistes, homophobes, etc. Et qui justifie du coup une certaine politique d'État islamophobe et impérialiste au nom du droit des femmes ou au nom du droit des LGBTI. Donc ça me semblait important de distinguer entre ces trois types d'actrices parce qu'on a souvent tendance à projeter les unes sur les autres et je pense que c'est très différent. Mais quoi qu'il en soit, et outre ces distinctions, moi ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que j'estime que cette stratégie, elle a deux apories principales, elle a deux limites principales qui font que moi je suis pas convaincue de cette stratégie, c'est pas par positionnement moral, mais vraiment par réflexion, quoi. Première aporie, c'est précisément l'analyse de la domination qu'on peut faire avec la théorie de la reproduction sociale. On voit finalement que l'oppression des femmes, c'est central au système tel qu'il existe aujourd'hui, au système capitaliste, et que du coup, il semble difficile de réformer à la marge la société sans changer totalement son cœur, parce que l'oppression des femmes est nécessaire au système actuel. Donc il y a une contradiction avec juste une réforme à la marge. Et la deuxième aporie que j'aurais, que cette stratégie, finalement, elle voit en l'État l'outil central pour améliorer la condition des femmes. Or, à mon sens, et on le voit avec le développement du fémonationalisme, l'État n'est pas neutre, et quand il soutient la cause des femmes, il a toujours son propre agenda en tête derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de politique vis-à-vis de l'État, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas arracher dès aujourd'hui et maintenant des améliorations. Mais il faut voir que elles ne pourront qu'être arrachées avec la mise en place d'un rapport de force. Si on est dans la logique de la transformation de l'État de l'intérieur, eh bien, on risque fort d'être instrumentalisé dans d'autres politiques d'État qui posent véritablement problème aujourd'hui, notamment ce que je disais sur la question de l'islamophobie et de l'impérialisme. Donc ça, c'est pour les limites de la stratégie réformiste. J'ai presque fini, donc accrochez-vous. La deuxième stratégie que j'aborde qui est très différente, c'est la stratégie que j'ai appelée, faute de meilleurs termes, la stratégie intersectionnelle, que je distingue vraiment de la théorie intersectionnelle, c'est-à-dire que moi je me reconnais dans plein d'aspects des théories intersectionnelles qui existent, mais ce que j'ai appelé stratégie intersectionnelle, c'est une adaptation, une déformation dans les pratiques militantes de théories très différentes. C'est pour ça que je dis que je nomme cette stratégie faute de mieux stratégie intersectionnelle, parce que j'ai conscience que c'est pas forcément le meilleur terme, mais voilà, c'est celui que j'emploie. Et finalement, ce que je critique dans cette stratégie-là, c'est pas tellement les moyens mis en place, mais le fait que ces outils d'action deviennent des fins en soi. Donc c'est vraiment la question de la déformation. Et notamment, ce qui me semble limité dans cette stratégie, c'est quand elle en vient à une lecture des oppressions uniquement en termes d'identité, uniquement, et que finalement, on en vient à effacer les structures qui déterminent ces identités. Les oppressions en viennent à être analysées à un niveau qui est purement individuel ou inter-individuel, ce qui est une question importante mais qui n'est pas la seule. Et il y a une attention centrale, très spécifique, qui est donnée au langage comme vecteur presque principal de l'oppression. Et finalement, la limite ici, c'est qu'on n'analyse plus les bases économiques, politiques, sociologiques, structurelles des dominations, mais qu'on ne les pense plus finalement qu'en termes uniquement de privilèges, c'est-à-dire des symptômes finalement individualisés d'un système plus global. Donc on en vient finalement à surtout essayer de changer les individus un par un, ce qui est une tâche extrêmement longue et difficile, et on n'en essaye plus de renverser les structures qui finalement déterminent ces individus. Alors évidemment, je pense que la déconstruction, c'est quelque chose d'important. Là, ce que je critique, c'est quand ça devient une fin en soi. Et de la même façon, la politique qui est souvent proposée, c'est celle de la création d'espaces safe, en fait, en non-mixité, d'espaces sécurisés, où l'oppression ne s'exercerait plus, donc des espaces non mixtes. Et là aussi, attention, je ne suis pas en train de critiquer l'instrument de la non-mixité. Pour moi, c'est un instrument extrêmement efficace et je ne serais jamais devenue militante sans son existence. Mais là aussi, ce que je critique, c'est à la fois quand ça devient une fin en soi, qu'il n'y a plus d'autres perspectives, et à la fois quand on finit par se dire qu'on peut créer des espaces qui soient libérés de l'oppression, parce que je pense que c'est impossible et que ça mène à une course à la chasse aux dominations pour créer les espaces les plus safe possibles, qu'en fait on n'y arrive jamais jusqu'au bout. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que ce n'est pas un instrument efficace ponctuellement, mais à mon avis il ne peut pas être coupé d'autres instruments. Donc voilà, face à ces deux stratégies très différentes et que je mets pas du tout sur le même plan, je définis une troisième stratégie que je qualifie de marxiste révolutionnaire et que je défends, et qui conserve beaucoup de points de la stratégie intersectionnelle et notamment, enfin surtout de la théorie intersectionnelle, et notamment l'idée de la nécessité de croiser les dominations, comme je le disais, de ne jamais penser le féminisme indépendamment des questions de classe et de race, et que justement la théorie de la reproduction sociale permet de penser un système unitaire fondé à la fois sur la production et la reproduction et de penser le croisement des oppressions. Donc ça, c'est le premier point, à mon avis, important de cette stratégie, c'est qu'elle se base sur une certaine théorie, théorisation. L'autre aspect, c'est qu'elle pense la centralité des structures dans l'existence des oppressions, même si, comme je l'ai dit, il y a une importance de la déconstruction individuelle. On change en fait vraiment qualitativement quand on se prend à essayer de changer les structures. Donc on pense que c'est avant tout les structures qui créent l'oppression, qui produisent et reproduisent l'oppression. Et que du coup, bah, il faut s'attaquer aux structures, et ça nous mène justement à une perspective révolutionnaire de renversement de ces structures pour créer une nouvelle société qui serait débarrassée des différents types d'oppression. Et cela, à mon avis, ça passe par deux choses centrales. La première chose centrale, c'est la convergence des luttes, c'est la convergence des différentes luttes dans les différents secteurs, mais aussi contre les différents types d'oppression. Alors souvent, dans le milieu militant, quand on parle de convergence des luttes, on peut avoir l'impression que c'est convergence d'une lutte derrière une autre lutte, qu'il y aurait une forme de re-hiérarchisation des luttes, mais quand je parle de convergence des luttes, c'est bien sûr la convergence des différentes luttes ensemble à égalité vers un même point. Donc c'est une certaine vision de la convergence des luttes. Et l'autre outil, c'est l'outil finalement qui est en train de se développer dans cette quatrième vague du féminisme qui est en train d'éclore. C'est la grève à la fois du travail productif, le travail salarié, mais aussi et centralement la grève féministe, la grève du travail reproductif dans tous ses aspects, aussi bien dans ses aspects salariés que bien sûr domestiques. Et quand on parle de grève du travail reproductif, on parle aussi de grève du travail de reproduction du genre, des normes sociales de genre, de la domination, etc. Donc un aspect aussi symbolique, c'est finalement une grève totale qui se déploie par là. Et du coup, pour conclure et pour finir, depuis 2016-2017, le collectif argentin Ni Una Menos appelle à une grève féministe internationale à chaque 8 mars. Là, la grève, elle est en train de se construire en France. Ce week-end, à Toulouse, justement, il y a eu des rencontres féministes pour construire la grève pour le 8 mars prochain. Et donc, c'est une perspective qui est très concrète et qui va se poser très rapidement cette année. Donc, c'est en plein dans l'actualité. Voilà, je m'arrêterai là.
Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais savoir sur les questions d'intersectionnalité. Si vous abordiez le lien avec la cause animale et donc la marchandisation des corps des animaux à outrance, et qu'est-ce que vous en pensiez ?
Alors, dans mon livre, c'est une question que j'aborde pas du tout. De la même façon, j'aborde très très peu la question de l'écologie parce que c'est des domaines en fait sur lesquels je suis pas encore suffisamment formée ou je me sentais pas suffisamment en mesure d'en parler. Mais c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Notamment, alors bon, c'est pas directement sur la cause animale, mais un point sur lequel j'aimerais travailler par la suite, c'est sur la question, je parlais de contradiction entre production et reproduction finalement, et inhérente au capitalisme, et finalement ça rejoint aussi des questions écologiques au sens où on constate que le capitalisme il essaye de prendre partout sur la reproduction, de diminuer au maximum le coût de la reproduction. C'est la reproduction sociale, mais c'est aussi la reproduction du milieu dans lequel on vit. Et du coup, j'aimerais développer une lecture plus écologiste de la notion de reproduction. notamment en lien avec la force de l'écoféminisme qui peut y avoir aujourd'hui aussi en Amérique latine. Mais j'avoue que c'est des questions que pour le moment j'ai pas du tout creusées, où je me sentirais pas du tout experte pour rebondir. Mais juste pour dire que ça, je prévois de l'explorer davantage dans le futur. Voilà, je ne l'ai pas fait, mais je préférais ne pas l'évoquer que l'évoquer rapidement et mal. Voilà, c'était un peu mon point, en me disant que j'aurais le temps de poursuivre par la suite. Mais c'est une remarque pertinente.
Voilà. Bonjour. Vous dites que dans le capitalisme et dans le travail reproductif, vous m'entendez ? Quelle est votre position sur la PMA pour toutes les femmes et la GPA, puisque ce sont peut-être alors des moyens pour diminuer le coût de la reproduction, c'est possible d'y penser, je ne sais pas si voilà, vous me comprenez bien. Et deuxième question, quel travail domestique, en parlant d'une femme ou d'un homme, chez elle ou chez lui, peut être payé en fait ? Qui peut vous payer chez vous en train de, je sais pas, laver, ranger, faire votre lit, faire la cuisine ? Qui peut faire ça ? Voilà, deux questions.
Bon, sur la PMA et la GPA, peut-être que le système capitaliste a son propre plan en tête, mais en tout cas, c'est des revendications de la part, en tout cas pour la PMA, des principales concernées. Et à ce titre, je suis bien sûr pour l'ouverture de la PMA à tous et toutes. Quant à la GPA, je suis pour l'ouverture et la possibilité d'une GPA sous le modèle du don d'organes, c'est-à-dire non marchandisé, sous le modèle du don, en fait, et avec la mise en place d'un... Alors, pas un contrat, mais en tout cas d'une forme d'agrément entre les deux parties et d'un contrôle éventuellement juridique des bonnes conditions de la GPA. Mais à partir du moment où le droit accepte le don d'organes, je trouve étrange qu'une GPA sur ce modèle-là ne soit pas rendue possible. Bon, mais ça, c'est mes positions personnelles en tant que féministe. Voilà, je parle pas du tout de ces questions-là dans le livre. Sinon, pour la question du travail domestique rémunéré, moi, ma perspective, c'est pas tellement celle de rémunérer le travail domestique. Dans les années 70, il y avait eu une campagne qui s'appelait en anglais Wages for Housework, qui avait été menée notamment par Sylvia Federici. Et Sylvia Federici, elle expliquait qu'elle avait mené cette campagne pour visibiliser le fait que le travail domestique était un travail. C'était surtout pour ça. Parce que à chaque fois, il y a cette nécessité de rendre visible l'invisible. On en discutait justement au week-end féministe qui vient d'avoir lieu, cette difficulté d'objectiver le travail domestique en termes d'heures, de tâches et aussi de travail comme travail. Mais moi, ma perspective, ce serait plutôt celle d'une collectivisation du travail domestique et de l'ensemble des tâches reproductives, c'est-à-dire de les diminuer au maximum en les mutualisant, en créant grandes garderies collectives, crèches collectives, cantines collectives. Ça, forcément, ça implique de repenser la façon dont nos sociétés sont construites, y compris nos habitats, nos quartiers, et de penser à un système d'entraide, et aussi de déconstruire en partie le cadre familial et le noyau familial, en séparant, en détruisant finalement tout ce qui est cadre, on va dire, juridique et économique de la famille, en conservant les liens affectifs si les personnes veulent les conserver, mais en remettant en question justement la famille comme le lieu principal de la reproduction. Et finalement, en déplaçant cette reproduction, en la libérant finalement de ce cadre familial et en la mutualisant. Donc ça, c'est ça ma perspective plus que celle d'un salaire.
Oui, moi tu l'as dit du coup dans ta réponse, mais sur la question précisément plus des perspectives sur la socialisation de ce travail qui est invisibilisé. Mais moi, je pense que ça pose une question qui est intéressante, qui est en fait celle de, quand tu parles de stratégie, vers qui on se dirige et contre qui on s'organise précisément, dans le sens où je pense que l'apport de la théorie de la reproduction sociale, c'est de démontrer en dernière instance, pour essayer de l'expliquer d'une certaine manière, mais que précisément, si ce travail-là, il est socialisé, considéré en tant que travail et qu'on arrête de l'invisibiliser, il faut se demander à qui ça va coûter. Enfin, si on fait un peu cet effort de projection, pour qui ça va être un coût à l'échelle plus structurelle. Et peut-être qu'individuellement, pour schématiser dans un couple hétérosexuel, pour des questions de patriarcat ancré, un mari pourrait sur le coup ne pas être content, je sais pas, de pas rentrer avoir le repas préparé par sa femme, mais d'une manière extérieure, etc. Mais que le coût est minime, et on voit bien qu'en dernière instance, s'il peut manger d'une autre façon que par un repas préparé par sa femme, ça ne lui coûte rien en dernière instance, et que précisément le coût d'une socialisation, enfin, c'est ce que t'expliquais bien, quoi, c'est pour le patronat et pour le capitalisme, puisque ça veut dire le mettre en place, etc., et que ça nécessite un rapport de force. Et je pense que cette question de la stratégie et de comment la stratégie, c'est, pour utiliser des termes militaires, c'est l'art de gagner la guerre, et comment toutes nos batailles, elles sont justement tournées vers justement cette, contre qui on se bat et comment on veut le renverser. Et je pense qu'il y a un outil dont tu as pas parlé, mais y compris en tant que militante politique et féministe, quoi, qui est la question du parti et de comment on s'organise, précisément parce que ça fait partie aussi des théories marxistes, de la nécessité de s'organiser, à la fois l'auto-organisation des femmes avec cette question du patriarcat, mais y compris contre le système capitaliste, et la nécessité de s'organiser collectivement avec cet objectif-là qui est de s'attaquer un peu frontalement, quoi, au système capitaliste. Enfin, du coup, je ne sais pas si... plus sur cette question du parti et de l'articulation, du coup... c'est pas trop sous forme de question, mais...
Non, c'est vrai que je parle pas de la question du parti, mais parce que mon livre est plus large que ça, on va dire. Mon but, c'était de dialoguer avec le mouvement féministe sans dire la réponse, ce sera la réponse marxiste traditionnelle du parti. Et puis la question du parti, alors ça pose d'autres questionnements un peu différents, pas que stratégiques, enfin forcément aussi stratégiques, mais aussi organisationnels, c'est-à-dire comment est-ce que on articule l'autonomie du mouvement féministe, qui est un fait, que on soit pour ou contre, de fait ce mouvement il est autonome, et la question du parti, est-ce que du coup il faudrait un parti féministe, comment est-ce qu'on conçoit, si on pense que la forme parti correspond pas aux questions féministes, comment on conçoit l'articulation entre un parti, on va dire généraliste entre guillemets, et des collectifs peut-être sur des questions plus spécifiques. Enfin bref, ça posait tout un tas de questions qui, à mon avis, sont importantes à traiter. Je sais pas, pour évacuer la question, mais beaucoup plus spécifiques. Et moi, ce qui me semblait important de discuter dans le cadre du mouvement féministe, c'était à la fois la quatrième vague qui est en train d'arriver, et à la fois quel bilan on peut faire des différentes histoires et stratégies qui se sont déployées dans les 50 dernières années pour que cette quatrième vague, elle soit la plus forte possible en France et dans le monde. C'était surtout ça. Alors peut-être qu'effectivement, dans une certaine conception, un parti serait nécessaire, mais en tout cas dans le stade du développement du mouvement à l'heure actuelle, je pense que c'était pas la question, on va dire, prioritaire, et que ça aurait en fait amené tout un tas de réflexions autres qui déportaient un peu mon propos. Voilà.
Non, moi j'ai une question plus sur la question stratégique aussi. Parce que tu as beaucoup parlé en fait de Ni Una Menos, des luttes spécifiquement féministes, Mais ce qu'on voit en fait aussi dans la situation actuelle, c'est qu'il y a un retour de la lutte des classes à échelle internationale assez dure avec tous les mouvements qui sont très actuels, que ce soit au Chili, etc. etc. Et une des particularités, en tout cas, de pas mal de ces mouvements, même dans c'est une généralité qu'on peut faire, c'est que les femmes se retrouvent en première ligne de ces mobilisations. Pour prendre juste le cas français, ça a été pendant la lutte des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup en fait même d'intellectuels ou de journalistes. Il y a eu tout un dossier dans Le Monde Diplo en fait qui traitait de la question. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à la question stratégique, tu as évoqué la convergence des luttes, mais ce qu'on voit aussi en fait dans ces mouvements qui sont peut-être plus directement politiques, globaux, etc., c'est que à l'intérieur en fait se développent différentes déjà des questions qui peuvent se matérialiser de manière différente avec par exemple des cortèges de têtes femmes ou autres, et de ce fait en fait comment cette réalité en fait objective s'ancre plus en fait dans ta conception stratégique, et comment en fait voilà tu penses en fait ces questions là en tout cas de relations. Comment tu penses à la convergence concrète des luttes entre ces différents types, surtout qu'en plus pour le cas en tout cas des Gilets jaunes, il y avait un truc qui était très frappant, c'est que les femmes en fait Gilets jaunes disaient je ne suis pas féministe mais et déblatéraient en fait tout un ensemble en fait de revendications qui étaient clairement féministes. Donc on voit qu'il y a une déconnexion. Comment tu penses en fait au niveau stratégique cette question?
Bah, moi, je parle rapidement, peut-être, mais quand même un peu des femmes gilets jaunes dans mon livre. Et globalement, on a vu en France des tentatives de convergence entre le mouvement féministe, on va dire, traditionnel et les femmes gilets jaunes au moment du mouvement des gilets jaunes. Il y a eu pas mal... d'AG ou de réunions femmes gilets jaunes féministes qui ont lieu. Je sais qu'à Paris, le CNDF était très investi là-dedans. Je sais qu'il y a eu des groupes femmes gilets jaunes qui se sont montés, mais qui étaient souvent en fait plutôt à la base poussé par des féministes. Donc il y a eu des débuts de convergence qui ont lieu. Moi, évidemment, j'appelle à la convergence des luttes, de toutes les luttes, donc a fortiori les luttes où les femmes sont extrêmement présentes. Mais en fait, peut-être qu'il faudrait distinguer entre deux types de luttes féministes qui sont pas tout à fait les mêmes. Des luttes avec des mots d'ordre clairement et principalement féministes, on va dire, contre les féminicides, pour le droit à l'avortement, etc. Et des luttes féministes comme malgré elles, parce que il y a énormément de femmes en leur sein, et aussi parce qu'il y a des femmes qui élaborent des revendications sur leurs conditions spécifiques, notamment les femmes gilets jaunes, c'est ce que tu disais, même si elles ne reprenaient pas pour plein de raisons l'étiquette féministe, eh bien pour autant elles avaient une conscience de subir des formes de domination sociale spécifiques parce qu'elles étaient des femmes et elles se définissaient quand même comme femmes gilets jaunes. Donc en fait c'est une forme de féminisme qui est présent, mais qui va se développer sur autour de la question plus sociale et de l'intersection classe-genre, en gros, avec pas forcément cette centralité de la notion féministe, qui veut pas dire que c'est pas féministe. Hein. Mais du coup, on a ces deux types de luttes. Et en fait, je pense que les deux doivent converger, les deux doivent être considérés comme des luttes féministes, mais en même temps, il y a aussi une aporie dans l'extrême gauche qui consiste à considérer que dès qu'il y a des femmes dans une lutte, c'est forcément une lutte féministe. Moi, je pense qu'il y a un enjeu qui est à faire émerger une conscience féministe, des mots d'ordre et des revendications féministes, en articulant toujours avec les autres revendications sociales, mais qu'on ne peut pas se contenter entre guillemets quand on est militant, voilà, et qu'on défend nos positions, de dire bon bah voilà, c'est une lutte de femmes donc c'est une lutte féministe. Non, d'une certaine manière oui, mais il manque un pas en plus, et je pense que c'est important que ce pas en plus s'effectue. Mais évidemment, ça peut pas être le mouvement féministe traditionnel qui vient apprendre la vie aux femmes qui luttent. Évidemment, c'est pas ça. Là encore, ma notion de la convergence, c'est converger ensemble vers un point et pas une lutte derrière une autre lutte ou une lutte qui va apprendre à une autre lutte comment se faire. Mais néanmoins, je pense que voilà, on peut considérer les deux comme des luttes féministes, mais je pense qu'il y a un enjeu à défendre le développement de conscience féministe, de mots d'ordre féministe spécifiques en plus des mots d'ordre classiques. Voilà.
Oui, à tout à l'heure, je pensais que ça allait arrêter. Et je ne voulais pas rester avec ma question, mais je ne sais pas bien comment la poser en termes de questions, plutôt d'une réflexion, mais dont j'attends une réponse. Alors, et j'ai l'impression que tu parles toujours d'un féminisme blanc, avec une pensée, de certaines façons, occidentale, même si tu parles d'Amérique du Sud. Voilà, avec certains privilèges. Donc ma question c'est, même quand tu réponds à la déconstruction de la famille et avec une reproduction, un travail reproductif pas payé, t'imagines, t'as dit un mot, une autre façon, mais que je me dis impossible pour certaines autres catégories. Voilà, au très loin. Donc comment est-ce que tu penses que dans les stratégies, dans ta quatrième stratégie, on peut justement mobiliser des classes ou des femmes qui ne sont pas du tout aujourd'hui incluses dans ce genre de féminisme? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire les Indiennes, les immigrés, les femmes du monde arabe. Et ma question va aussi parce que ça aujourd'hui on parle de la loi. Oh, pourtant j'étais sans assise. Ah, pas bon. Ouais, et juste finir, je pense beaucoup dans la discussion la loi en sortie scolaire, les mots qui manquent dans toutes ces discussions entre hier et aujourd'hui, c'est le mot femme. Vraiment. Et là, c'est toi. Et donc, ma question, c'est comment, on inclut les femmes qui sont à la marge. Voilà.
Deux choses. La quatrième vague, elle part de l'Amérique latine. Donc pour moi, c'est les féministes d'Amérique latine qui montrent la voie et qui sont à l'avant-garde de la quatrième vague. Donc c'est plutôt, dans mon cas, les Françaises du coup qui suivent la voie qui est tracée par les militantes d'Amérique latine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on dit que le travail reproductif, il est au centre de la société, il est au centre de l'oppression des femmes, et qu'on analyse l'évolution du travail reproductif qui est de plus en plus pris en charge par les femmes racisées, du coup, ça inclut qu'il y a une centralité de la lutte des femmes racisées dans l'ensemble des luttes aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une question qui est centrale. Alors, je ne sais pas si mon féminisme est un féminisme blanc, mais en tout cas, je défends la centralité des femmes racisées stratégiques et politiques dans la quatrième vague aujourd'hui. Et en France, on voit que c'est des secteurs, le travail reproductif salarié qui est essentiellement pris en charge par les femmes racisées, qui sont très dynamiques en termes de lutte aujourd'hui. Qu'on pense aux luttes dans le ménage, dans l'hôtel honnête, des travailleuses de Campanile, d'Ibis, etc. On voit que c'est des luttes extrêmement dynamiques et qui, globalement, sont victorieuses. Ce qui vient encore plus confirmer qu'on est face à un secteur qui est absolument central pour l'économie capitaliste, bien que secteur extrêmement précarisé et précaire, puisque ces luttes, en fait, elles vainquent, elles sont victorieuses dans une période où il y a peu de luttes qu'ils sont, il faut quand même le souligner. Donc, comment remettre au centre Moi, je le dis théoriquement, stratégiquement, dans ma conception, les femmes racisées sont au centre. Après, c'est un peu le débat qu'on avait de la question de comment faire une convergence des luttes sans imposer finalement des grilles d'analyse à différents acteurs, c'est-à-dire comment faire converger le mouvement féministe, on va dire, traditionnel, et ces luttes-là qui ne sont pas forcément des luttes qui se vivent ou se lisent sous le prisme du féminisme. Moi, à mon avis, le premier pas, c'est bien sûr déjà d'aller soutenir ces grèves. Et mon collectif féministe, le collectif féministe révolutionnaire, notamment en ce moment, il soutient les travailleuses en grève d'Ibis. À mon avis, c'est un premier pas qui est important, le premier pas du soutien, de l'échange et la volonté de ne pas imposer des grilles de lecture mutuelles. Mais donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai répondu comme tu le voulais à la question, mais en tout cas... Là où la critique, elle me semble pertinente, c'est surtout sur la question des différentes vagues. Et c'est un débat que j'ai eu pas mal lors des rencontres. C'est que finalement, le problème de définir quatre vagues un peu figées comme ça, c'est que déjà, on a une centralité des pays occidentaux dans la définition de ces vagues, et aussi qu'on fixe certaines périodes, et du coup, à la fois on invisibilise d'autres espaces, et à la fois on invisibilise d'autres temporalités. Mais je suis d'accord avec ces critiques. Mais dans le même temps, moi, ce qui me semblait intéressant avec la conceptualisation en termes de vagues sous cette forme, c'est que ça permet de se réapproprier assez facilement une histoire qui, globalement, est vraiment très invisibilisée. Après, je pense que plus globalement, ce que ça pointe du doigt, c'est la nécessité de faire une histoire du féminisme qui soit vraiment sérieuse et conséquente, faite par une historienne ou un collectif d'historiennes et qui ferait un gros boulot, un gros bouquin qui nous permettrait vraiment de pointer du doigt là-dessus, mais ça évidemment c'est un travail qui est bien au-delà de ma portée et dans le cadre de ce livre j'ai essayé de privilégier la synthèse, on va dire, voilà, mais j'accepte les critiques sur ce point-là, je suis d'accord. Après, vraiment en termes politiques et stratégiques, comme je le disais, la question de la race, elle est centrale dans ma conception. Après, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment bien présentée, mais dans mes convictions, elle l'est. Voilà.
Bonsoir. Je trouvais ça assez intéressant que vous rassembliez, enfin que vous associez la question des ce que vous appelez les fémo-nationalistes avec les stratégies réformistes. Je trouvais ça intéressant parce que justement il y a tout ce côté-là d'un point de vue médiatique où les stratégies réformistes sont généralement considérées comme des formes respectables de lutte féministe. Et justement je me demandais quelle approche vous pouviez avoir sur les questions stratégiques face à cette tout le monde a compris le mot, la perte de crédibilité, de lutte plus active et moins passant moins par les instances législatives de l'État. Quelle pouvait être la place face aux médias et à l'image que les médias peuvent donner de ces mouvements plus actifs de lutte et plus directs?
C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre que j'aurai tous les éléments de réponse en main. Je pense que la première chose, déjà, c'est de toujours souligner, et c'est ce que j'essaye de faire, et globalement, c'est ce qu'on entend de plus en plus, qu'il n'y a pas une seule forme de féminisme, qu'il y a différents féminismes. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour enlever à l'idée des gens en général que finalement, le féminisme, c'est Marlène Schiappa pour aller vite, quoi. Ou même les fémines. Enfin, je veux dire, on réduit souvent le féminisme à quelques images. Éventuellement, il y a Beauvoir dans ces images, ce qui est déjà beaucoup mieux. J'aime beaucoup Simone de Beauvoir, c'était pas pour l'associer. Enfin bon, bref. Mais bon, on a un certain nombre de clichés. Donc, je pense déjà rien que toujours souligner qu'il existe différents féminismes, différentes stratégies féministes, différents héritages, différentes théories. Et aller à fond là-dedans, c'est quelque chose d'important. Le deuxième point, les médias, c'est difficile de lutter contre, et en même temps, il y a des gens bien dans les journalistes que j'ai été amenée à découvrir d'ailleurs lors de la promotion de ce livre, parce qu'avant j'avais une vision beaucoup plus... Bref, je vais pas m'éterniser sur la question, mais du coup c'est développer à mon avis aussi des contre-médias et collaborer avec des journalistes qui ont des visions différentes. À mon avis, c'est un point qui est central. Et puis, le dernier point, je pense, quand on voit un peu le travail de désinformation qui peut être fait par certains médias, on voit que la principale réponse, finalement, au bout d'un certain moment, c'est le nombre. C'est quand, en fait, même les médias peuvent plus nier l'évidence, parce qu'il y a une telle mobilisation, il y a une telle force de cette mobilisation, il y a une telle présence de cette mobilisation, que, du coup, tout leur travail de décrédibilisation, de désinformation ne peut plus passer, en fait, face à la réalité. Et je sais pas, à une échelle plus petite, en attendant peut-être les mobilisations vraiment incroyables, par exemple toute la campagne qui est faite à Toulouse et aussi en région parisienne et je crois à Marseille, bon, bref un peu partout, sur les féminicides, de visibilisation des féminicides dans l'espace public, c'est aussi une réponse pour aller au-delà en fait des représentations médiatiques, même si les médias commencent à en parler, je pense, pour imposer finalement une autre vision du réel, quoi, que le réel finalement s'impose et surpasse cette représentation déformée que sont les médias.
Déjà merci pour ton intervention et pour ta proposition. Déjà c'est tellement vivifiant déjà de voir un bouquin où il y a écrit « Révolution féministe » et de réinstiller tout simplement un état d'esprit révolutionnaire dans le féminisme qui en a bien besoin. Pour reprendre un peu des remarques qu'il y a eu précédemment, c'est clair, la question de la PMA pour toutes, bien sûr, c'est une avancée dans les droits, mais c'est tout simplement l'accès aux droits des lesbiennes à la famille nucléaire et donc à reproduire, à s'aligner sur le standard masculin patriarcal. Donc ça doit être, c'est peut-être un objectif intermédiaire, mais ça peut pas être un objectif final. Concernant le mot maintenant, parce que les mots aussi, on est là aussi pour instaurer des concepts et les réactiver, les revivifier, voire les tordre. Il y a Françoise Daubonne qui dit que l'esprit de révolution, par exemple, a suivi l'esprit de réforme et qu'il y a eu beaucoup de révolutions dans l'histoire et que finalement... Comme les bases, les fondamentaux, les racines des systèmes n'avaient pas été déconstruits, à savoir le patriarcat ou le système mâle, comme elle l'appelle, le système mâle universel, on est condamné à retrouver la même situation. D'ailleurs, c'est étonnant parce que l'analogie de la révolution, c'est quand même une planète qui part d'un point, qui fait le tour et qui revient exactement au même point. Et donc Françoise Daubonne propose d'instaurer un nouveau concept qui est la mutation. La mutation civilisationnelle, la mutation écoféministe. Et là, je rebondis en effet avec Carole avec sa question sur la question des animaux. Il faut le dire, par exemple, dans une perspective révolutionnaire, le mouvement féministe français particulièrement n'a pas du tout déconstruit l'humanisme androcentrique qui consiste à ériger au sommet de la pyramide de l'existence et de l'être humain l'homme particulièrement, et l'humain évidemment. Absolument, dans une perspective révolutionnaire féministe, il faut absolument que le féminisme devienne animaliste. Il y a un courant aussi féministe qui dit qu'en effet, femelle globalement exploitée dans aujourd'hui l'industrie capitaliste patriarcale, c'est par le corps des femelles que se reproduit la question de l'élevage et de la production. Donc, ça, c'était une première petite question sur la question des mots. Et ensuite, merci en tout cas. Ouais, voilà, moi, je vois qu'il y a dans la salle quelques camarades du collectif Tout en Grève. On a organisé ce week-end des rencontres féministes internationales pour justement faire connaître l'outil de la grève féministe, l'élargir, et pour créer une assemblée voilà, féministe. Donc on a une AG prochainement. Vous pouvez trouver toutes nos, vous pouvez retrouver tous nos rendez-vous sur Tout en Grève 31. C'est ouvert à toutes. Pour justement avancer sur toutes ces questions. Et je me souviens que dans un atelier que tu as animé, merci à toi, sur la question de la reproduction, du travail reproductif, qu'il y a une personne qui a dit, c'est que si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête, et qu'en fait, pendant ce temps où on s'arrête, eh ben, on le prend pour faire autre chose et autrement. Et donc tout l'enjeu de la grève, c'est pas juste, rien, c'est pas juste lâcher l'affaire pour rien faire, c'est, ou juste pour se faire du plaisir, etc., bien sûr, mais c'est pour aussi inventer d'autres formes de vie, c'est pour inventer d'autres institutions qui sont une alternative, une troisième voie, ni le privé, ni l'agonie, la tragédie de la famille patriarcale avec toutes ces violences, ni non plus potentiellement la question du public qui a été totalement réaccaparée par l'État ou d'autres formes de services publics, mais une petite troisième voie qui est le commun, les communs. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Les femmes kurdes, par exemple, dans leur mouvement, réinventent la question, ce qu'elles appellent les communes de femmes, le confédéralisme de femmes. Elles inventent de nouvelles institutions, elles inventent des institutions, des académies de femmes, des universités. Elles font une critique très forte de l'université patriarcale. Et donc, en effet, ce temps doit être pris pour inventer, pour inventer d'autres formes de vie. Et donc, voilà, sur cette question, est-ce que toi aussi, tu as voilà, des perspectives là-dessus? Je sais que tu étais avec une camarade, Lisa, qui est aussi de ton collectif parisien. Et voilà, ces intervenants étaient, avec les tiennes, étaient vraiment très chouettes sur ces questions. Merci.
Merci pour l'intervention. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais réussir, là, du tac au tac, à réagir sur tout. Pour la question de la PMA, puisqu'on en reparle, oui, il y a les limites qui ont été pointées, mais comme tu le disais, c'est de toute façon une revendication immédiate. Et par ailleurs, je trouve ça bizarre de demander à une catégorie de la population d'avoir plus déconstruit les notions de famille qu'au reste de la population, en fait. Donc je ne le ferai pas, et j'estime que si voilà, les lesbiennes et plus globalement les personnes qui veulent accéder à la PMA souhaitent le faire, c'est leur droit, et on va pas leur demander « Ah, mais tu te rends compte que la famille c'est oppressif et tu vas avoir des enfants, mais en fait c'est l'oppression en acte, etc. » Enfin non, voilà, c'est voilà. Donc c'est ma position là-dessus. Sur la question des mots, alors oui, il y a cette particularité du terme révolution qui est un retour finalement au point de départ. Mais alors là, c'est peut-être mon côté vieux jeu, mais j'aime bien le terme de révolution personnellement. D'ailleurs, c'est le titre de mon livre. Donc on peut reconceptualiser, mais moi j'aime bien me mettre dans une certaine... dans un certain héritage, vous l'aurez compris, la question de retrouver son héritage et ses racines, c'est quelque chose d'important pour moi, et ça a été une des dynamiques du livre. Et du coup, se réapproprier d'un point de vue féministe la révolution qui a souvent été pensée comme une révolution uniquement sur le plan, on va dire, social ou des classes, pour moi c'est très important. Et du coup, moi je défends qu'on utilise, enfin je défends mon terme de révolution. Pour la question de la grève, j'étais totalement d'accord avec toi sur le fait que la grève, c'est à la fois un outil central, stratégique, parce que c'est ce qui permet de tout bloquer, et c'est aussi ce qui permet d'avoir du temps pour s'organiser, pour faire des contre-organisations finalement, pour voir aussi qu'est-ce qu'on va demander en plus, pour pas juste arrêter l'état existant, mais construire quelque chose d'autre. Donc là, j'étais totalement d'accord avec toi. Pour la question des communs, je pense que ça dépend comment on considère les communs. Souvent, mais je me trompe peut-être, hein, mais la conceptualisation des communs, c'est l'idée qu'on pourrait avoir des communs dès ici et maintenant, finalement. Mais peut-être il y en a d'autres. Moi, je suis pour des communs, oui, mais je pense que c'est difficile d'en créer dans le cadre de la société capitaliste patriarcale telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Donc, ça dépend dans quelle perspective on se place. Est-ce qu'on se place dans l'idée de faire des communs dès maintenant et ici ? Et je pense que ce sera des expérimentations. C'est un peu comme la non-mixité. C'est intéressant, mais ce sera forcément limité. Ou est-ce que l'idée, c'est les communs, une fois la révolution venue, le renversement des structures, etc. Et là, je suis plus d'accord. C'était tout ce qu'on disait sur la question de la socialisation, justement, des tâches domestiques et le fait que ça implique de reconceptualiser entièrement comment on vit, comment on fonctionne, l'entièreté du fonctionnement de la société et oui, comment est-ce qu'on peut mettre en commun, c'est-à-dire socialiser ces tâches domestiques. Donc là, je pense qu'on est d'accord. Et une dernière chose sur la question des services publics. Je pense que c'est important d'articuler, mais je l'avais déjà dit, c'est plus pour parce que on en a déjà parlé, mais pour la salle, d'articuler des revendications, on va dire, immédiates sur, par exemple, les services publics. Donc à la fois plus de financement pour les services publics, de meilleurs services publics, et aussi, on en a parlé ce week-end, et c'était intéressant, le fait de penser quel service public on veut. Ça, j'y avais pas pensé toute seule, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que on va pas se contenter de la forme actuelle des services publics. On peut aussi penser, par exemple, une éducation qui déconstruise le genre, enfin pour donner des exemples quoi. Qu'est-ce qu'on porte pour les services publics ? Articuler ces revendications immédiates à la perspective plus à long terme de la socialisation des tâches reproductives. Parce qu'en fait, la difficulté, si on parle que de socialisation des tâches reproductives, c'est que bon, tant que la situation elle n'est pas révolutionnaire et qu'il n'y a pas ce changement radical de société, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on demande ? Qu'est-ce qui va mobiliser les gens ? Ben, du coup, à mon avis, il faut réussir à articuler avec la question des services publics comme une forme de préforme de collectivisation à l'heure actuelle dans la société existante, quoi. Voilà.
Oui, alors, tout d'abord, merci pour la présentation. J'ai lu le livre, je l'ai trouvé très, très intéressant, justement, sur la synthèse que tu disais au début des différentes traditions du mouvement féministe. Et moi, je voulais plus revenir sur une partie du livre que tu détaillais à la fin, sur la question des happy few, des quelques-uns qui s'arrogent, justement, la légitimité sociale, théorique et tout ça, de représenter un tel type de lutte, mouvement féministe, LGBT, antiraciste et tout ça. Bon, déjà par une expérience personnelle dans le mouvement LGBT, mais précisément parce que toi tu parles de bureaucratisation, enfin d'une espèce de bureaucratie qui se crée dans ces associations-là ou collectifs. Et moi je trouve ça intéressant d'élargir en fait cette notion-là en voyant en la reliant à ce que tu détailles déjà, qui est le féminisme réformiste, le féminisme institutionnel. Et précisément comment dire, quand on voit l'espèce d'appel d'air qu'a déclenché en fait le Grenelle des violences conjugales et l'appel de Schiappa à toutes les organisations à venir discuter dans le cadre de l'État pour parler de ces violences là. Je sais pas trop comment tourner la question, mais précisément, on voit que de ces directions proclamées, moi je pense à nous tous par exemple, directions proclamées du mouvement féministe, il y a une limite dans les revendications qu'elles apportent en se confiant justement à une des principales ailes qui précarise en fait les femmes, les LGBT, les racisés, une grosse partie de la population. Et donc, ça pose la question que je trouve que tu développes peut-être pas assez dans le livre, qui est la question justement de comment on s'organise pour lutter contre ça, mais précisément en indépendance justement de l'État qui nous précarise et de ces institutions qui sont un relais en fait de cette précarisation.
Du coup, si j'ai bien compris, toi, tu faisais un lien quand même entre du coup, des actrices plus que qu'on va qualifier à l'âge de intersectionnelles et des actrices réformistes, qu'il y aurait une sorte de pont en fait entre les deux. Ou alors j'ai pas bien compris. Ah oui, ok. Ok. Oui, oui, ok, j'ai compris. Du coup, ta question, c'est plus comment faire pour qu'il n'y ait pas des personnes qui s'arrogent le mouvement et qui en prennent la direction et qui aillent négocier à notre place. Bah, je suis d'accord que c'est des questions qui sont essentielles, mais on va dire que à l'échelle du mouvement féministe, moi, je pense que la première question, c'est déjà comment est-ce qu'on fait émerger un mouvement en France ? Parce qu'en fait, ça, ces questions, nous toutes, en l'occurrence, je pense que tu penses à Caroline de Haas, peut très bien aller négocier avec les ministères. En fait, pour le moment, elle ne représente personne parce que pour le moment, il n'y a pas de mouvement réel en France. Il y a des débuts de construction et c'est très bien. Et il y a des AG à plusieurs centaines de personnes, mais il n'y a pas un mouvement comme il y a pu en avoir. Même, vous parliez des Gilets jaunes, comme il y a pu y en avoir pour les Gilets jaunes. Et c'est ça qu'on vise. Donc, dans un premier temps, pour moi, avant de anticiper comment certains membres du mouvement vont trahir, il faut déjà construire le mouvement. Mais peut-être qu'il faut faire les deux en même temps par ailleurs, en ayant en tête cette optique. Hein, je dis pas le contraire. Mais pour moi, à l'heure actuelle, surtout les tâches du mouvement féministe, c'est de construire ce mouvement-là en réussissant en fait à faire un 8 mars. Qui soit réussi et donc à la fois en créant des comités locaux sur les quartiers, sur les lieux de travail pour la construction de ce 8 mars et en essayant de coordonner ces comités locaux à l'échelle nationale comme ça a été fait ce week-end et il y aura de nouvelles rencontres en janvier donc c'est une perspective et à la fois en mobilisant à la base les syndicats parce que les syndicats ils sont quand même un lieu de grande organisation de toute une partie de la population ils appellent en fait à la grève pour le 8 mars depuis pour le 4 solidaire depuis assez longtemps et pour la CGT depuis plus récemment. Mais en fait, il faut réussir à faire en sorte que cet appel, ce ne soit pas juste un appel en l'air. Et qu'en fait, dans chaque section syndicale, il y ait une construction réelle de cette grève. Et à mon avis, ça viendra surtout de la part des militantes féministes syndiquées qui peuvent pousser à ça. Et c'est aussi pour ça qu'il va y avoir des intersyndicales femmes qui vont être organisées à Paris et à Toulouse pour essayer de construire justement dans les syndicats cette grève. Donc moi, à mon avis, les tâches principales à l'heure actuelle, c'est celle-là. Après, c'est pas pour botter en touche sur ta question. Je pense que c'est une vraie question et qu'elle est... importante, mais je pense que dans un premier temps, déjà, il faut construire le mouvement, il faut construire aussi des cadres d'auto-organisation qui soient forts, et en fait, ces comités locaux de préparation du 8 mars, c'est des cadres d'auto-organisation qui commencent à se mettre en place, les coordinations qu'on met en place à l'échelle nationale, c'est aussi des cadres d'auto-organisation. Et dans ces cadres-là, à mon avis, la meilleure façon de se prévenir des trahisons futures, c'est de mettre au centre vraiment un fonctionnement qui soit le plus démocratique possible, sur la base de mandats, etc. etc. Mais tout ça, voilà, dans un premier temps, quoi.
Donc, merci d'abord aussi. Et c'était juste pour revérifier si tu évoques ou pas du tout tout ce mouvement écoféministe, justement, qui a été très fort aux États-Unis dans les années 70.
Alors, je l'évoque, mais vraiment en passant et pas tellement sur ma rétrospective historique, mais plus pour dire qu'il a une importance en Amérique latine. Et là aussi, c'est un point que j'assume aveugle du livre et qui sera creusé par la suite parce que ça m'intéresse beaucoup, en fait, ces questions-là. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de m'approprier les débats. Mais voilà. Je vais creuser tout ça dans le futur. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Et merci pour les questions et les remarques. Très intéressantes.
C'était Aurore Koechlin qui a présenté son livre La Révolution féministe, paru aux éditions Amsterdam.
Sur livre dormir.